Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Bienvenue, welcome, welcome et tout ce genre de choses dans cette émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, de préférence sur les grands écrans depuis maintenant un peu plus d'un siècle et qui nous charment. Ce jour, et bien j'en suis très heureux pour une fois. Notre émission sera franco-française puisque nous allons la consacrer créé un compositeur de musique de film, bien évidemment, trop tôt disparu, et il y a déjà bien longtemps, près de 40 ans, comme le temps passe, François de Roubaix, puisque c'est de lui qu'il s'agit, mais en lisant les petites fiches qui ne me quittent jamais, et en matière de, je dirais, de préambule, alors que j'aurais pu en faire une conclusion, eh bien, il faut croire que je ne suis pas le seul à me souvenir de François de Roubaix et à l'aimer comme il fut un grand compositeur, et il aurait été sans doute l'égal de Georges Delerue, de Philippe Sardou, de quelques autres, puisque j'ai appris à ma grande surprise qu'en 2008, Vincent Delerme lui avait consacré une chanson qui s'appelait François de Roubaix dans le dos, j'ai pas entendu. Et en 2011, le croiriez-vous, Julien Doré lui-même lui a consacré une chanson qui s'appelle Roubaix, mon amour. Roubaix, mon amour, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est une belle introduction à cette émission consacrée à un musicien autodidacte qui découvre le jazz à l'âge de 15 ans. Son père, Paul de Roubaix, est plus ou moins dans le milieu, comme l'on dit, puisqu'il réalise des films institutionnels et que, bien évidemment, dans les films institutionnels aussi, il y a de la musique, qui n'est pas forcément institutionnelle. Et par conséquent, eh bien, dès son plus jeune âge, le jeune François de Roubaix baigne dans cet alliage si particulier. Je viens de le dire, entre musique et cinéma. Et tout naturellement, en 1961, eh bien, il compose sa première partition pour un film documentaire alors consacré à la vie des chenilles processionnaires. J'avoue que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu non plus la bande originale. Par contre, le nom du réalisateur, retenez-le, puisqu'il s'appelle Robert Enrico et qu'il fut dans les années 70-80 un grand réalisateur du cinéma français, comme beaucoup, en tout cas à l'époque. Il débutait bien modestement. Ensuite, eh bien, on vit François de Roubaix accompagner, là encore, Robert Enrico, tout à la fois dans d'autres courts-métrages, dans des films de télévision et quelques autres, avant que les deux se retrouvent en 1966 pour, je n'oserais dire, leur première production sérieuse, mais en tout cas, leur première production conséquente, ça s'appelait Les Grandes Gueules et on y voyait, sauf erreur de ma part, Lino Ventura et Bourville aux prises dans une grande forêt. Ce n'est pas pour autant de ce film dont je vais vous proposer d'écouter un extrait, mais du suivant de Robert Enrico, toujours donc avec François de Roubaix. Ça s'appelait Les Aventuriers et en 1967, Robert Enrico réunissait devant sa caméra eh bien, une solide distribution avec en tête d'affiche les virils Alain Delon et Lino Ventura. Fort bien assisté de ces seconds rôles du cinéma français qui en font le charme et la nostalgie. Reggiani qui était là, Paul Crochet, Guy Delorme et quelques autres. Il y avait aussi une jeune femme, bien sûr. Il y a toujours une jeune femme entre deux hommes. Johanna Simkus, bon, vous ne vous en souvenez pas, moi non plus à vrai dire. Elle n'a pas fait une grande carrière, même si elle a tourné après dans deux autres films d'Enrico. Allez, j'en ai déjà assez dit. On va s'écouter un petit extrait de cette bande originale. François de Roubaix, mon amour si on veut. En tout cas, Divergence FM, mon amour. Thank you. Voilà un extrait de la bande originale des Aventuriers, un film de Robert Enrico tourné en 1967 sur un scénario co-signé par Robert Enrico et par José Giovanni. Alors si je cite José Giovanni, c'est qu'il fut aussi, en tout cas François de Roubaix fut en tant que musicien un de ses compagnons de route, puisque même si nous n'en écouterons pas d'extrait dans l'émission de ce jour, eh bien François de Roubaix signa la bande originale, par exemple de La Loi du Survivant, tournée en 1967, toujours d'ailleurs un peu avant sans doute Les Aventuriers. J'égrène ma petite fiche, pardonnez-moi, en direct. Il fut aussi le compositeur de la bande originale du Rapace, du même Giovanni, en 1968. De Dernier domicile connu en 1970, et aussi de La Scoumoun avec Claudia Cardinale et Jean-Paul Belmondo, tourné en 1972. En tout cas, à mon goût, une des plus belles partitions d'un compositeur qui, en très très peu de temps, eh bien, comme beaucoup d'ailleurs de compositeurs de musique de film, il faut bien le reconnaître, aura signé beaucoup beaucoup de bandes originales avec quelques cinéastes privilégiés comme Robert Enrico, pardonnez-moi, dont nous écouterons un autre extrait en guise de finale, mais aussi comme Dolores Gracian, Jean-Pierre Desagna, Yves Boisset, François Villiers, bref, plein de noms qui évoquent le cinéma français des années 70, en bien comme en mal, ou en moins bien, en tout cas, il faut le reconnaître, mais en tout cas, rien de déshonorant. En 1967, toujours, je le mentionne sans pouvoir, hélas, vous en proposer un extrait, eh bien, c'est François de Roubaix qui signe la bande originale de la série télé des Chevaliers du Ciel. Mais oui, je ne vais pas vous faire Johnny chantant les aventures de Tanguy et la Verdure. En tout cas, la musique, elle est bien de François de Roubaix. Et en 1967, toujours, eh bien, François de Roubaix retrouve là certainement l'un des plus grands cinéastes français de cette époque-là, un homme avec un univers inspiré très largement du cinéma américain et qui revendiquait le droit de faire à la française des films noirs comme dans le cinéma américain. Vous l'avez peut-être reconnu, Jean-Pierre Melville, né de son vrai nom Jean-Pierre Grimbach à Paris le 20 octobre 1917 et qui commence sa carrière d'une manière relativement fracassante en 1947 en adaptant aussi, cela dit, au sortir de la guerre, Le silence de la mer de Vercors. L'histoire, que je n'ai jamais vérifiée, dit qu'il le fait sans avoir l'accord de Vercors, ce qui était même à l'époque relativement dangereux, et que celui-ci, eh bien, ne peut que se déclarer satisfait, de fait, d'une adaptation tout à fait magnifique. Un très, très beau film. Suivront bien d'autres, mais pas énormément pour un cinéaste de cette ampleur, parmi lesquels on peut citer Le Doulos, tourné en 1963, et puis ses trois derniers films fort connus, L'Armée des Ombres, tourné en 69, Le Cercle Rouge, tourné en 70, et Un Flic, tourné en 1972. Eh bien, c'est l'avant-dernier film que je vais vous proposer, en tout cas, dont nous allons écouter un large extrait de la bande originale, Le Samouraï, qui mettait en vedette Alain Delon. Alors, il y avait au générique de ce film, ou en tout cas, en exergue, une fausse citation, inventée en fait par Melville, mais dite extraite de la philosophie japonaise. Il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans la jungle, virgule, peut-être. En tout cas, avec ce pré-générique, on avait déjà le ton d'un film où Alain Delon était, comment dire, relativement mutique dans le rôle d'un tueur à gages, Jeff Costello, dont on suivait au fil des 95 minutes tout à la fois le métier, le sale métier, mais qu'il faisait bien, et puis évidemment la chute comme souvent, et sa mort qui était une sorte de rédemption, puisque on voyait bien, même si on l'entendait guère, qu'il s'agissait là d'un personnage relativement tourmenté. Alain Delon n'a peut-être pas fait que des grands films, mais en tout cas, il en a fait, c'est certain. Le Samouraï fait partie de cela. La bande originale de François de Roubaix était relativement chiche, elle était d'autant mieux venue. Allez, on va s'en écouter 2, 3, on ne sait pas. Quelques extraits, en tout cas, dans 24 notes secondes. Thank you. trois extraits, trois facettes, un même talent, François de Roubaix, donc trois extraits de la bande originale du Samouraï. Ma foi, c'est pas mal aussi de passer plusieurs extraits d'une même bande originale. Ça permet d'avoir l'atmosphère d'un film qui se déroulait entre nightclub et boîte un peu louche parisienne pour un film magistralement interprété par Alain Delon. À ses côtés, eh bien, on retrouvait Nathalie Delon et surtout, il nous manque beaucoup François Perrier, qui fut l'un des plus, déjà un immense acteur de théâtre, mais aussi l'un des plus grands second rôles du cinéma français, et à les confrontations entre Alain Delon et François Perrier, qui jouait bien sûr le rôle du commissaire, tout simplement. Eh bien, cela prouve que depuis les années 70, on a quand même fait un peu de pas en arrière pour ce qui est de l'interprétation dans le cinéma français. Bah, je ne vais pas commencer mon petit discours, on va rester dans les années 70 et on va passer à un talent qui, lui, est encore là. Alors ça, c'est absolument extraordinaire, puisque monsieur Jean-Pierre Mocky, qui a débuté comme cinéaste dans les années 60, eh bien, continue encore à tourner. Je ne sais plus trop combien il a fait de films, mais lui n'a guère de soucis commerciaux, puisqu'il a son propre système économique. Il produit ses propres films avec son propre argent, les distribue dans ses propres cinémas, et j'imagine bien, gagne du coup ses propres recettes. En tout cas, c'est un esprit libre. Il y en a de moins en moins en ce bas monde, et surtout dans le cinéma qui est quand même bien nourri de subventions diverses et variées. Rien de tel pour Jean-Pierre Mocky, dont les films passent très rarement à la télévision, et c'est le moins que l'on puisse dire. Et en 1970, avec Les Talons, eh bien, il terminait, hélas, une tétralogie de films avec Bourvil dans les rôles principaux, puisque nous avions eu successivement Un drôle de paroissien, La cité de l'invincible peur et La grande lessive, où on voyait des gens faire une grève de la télévision. Encore un film de science-fiction. Et donc, en 1970, c'est avec Les Talons, tourné à Portbou, eh oui, pas bien loin d'ici, que ces deux-là, eh bien, finirent une collaboration que Jean-Pierre Mocky a poursuivi avec bien d'autres acteurs, puisque rien que dans Les Talons, on voit aux côtés de Bourvil Francis Blanche, Michel Lonsdal, Jacques Legras, mais tout le monde a oublié Jacques Legras, et quelques autres qui ne jouaient que dans les films de Pierre Mocky, de Jean-Pierre Mocky, pardonnez-moi, mais que ceux qui les ont vus, dont ceux qui les ont vus sans doute, n'ont pas pu oublier La Bouille et La Faconde. La musique de ce film était bien évidemment signée de François de Roubaix. C'est pas bien long, mais c'est plutôt sympa. Alors on s'en écoute un extrait, Les Talons, de Jean-Pierre Mocky, et non pas Jean-Pierre Mocky, 24 notes, seconde. Thank you. Je vous l'avais dit que ça allait coiffer un petit peu, ma foi, le genre de musique qui fait du bien. Un extrait de la bande originale de L'Étalon, un film de Jean-Pierre Mocky tourné en 1970. Jean-Pierre Mocky, bien qu'il continue à tourner, je ne sais pas qui voit ces films, il est fort difficile de les voir ailleurs qu'à Paris, quand ils y passent d'ailleurs. Mais en tout cas, je l'ai dit, j'insiste, un esprit libre, un grand cinéaste. Et je constatais, en regardant mes petites fiches, eh bien, que François de Roubaix a collaboré à plusieurs reprises avec Jean-Pierre Mocky, puisque c'est lui aussi qui avait signé la bande originale, ça y est, je l'ai déjà reperdu, du Témoin, tourné en 1968, et d'un autre que je vais retrouver en vous parlant d'autres choses en même temps, et en l'espèce donc de François de Roubaix, qui poursuivit tout au long des années 70 une carrière fort soutenue, puisque rien que dans l'année 1970, justement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 musiques de films ou de séries télé, puisque l'homme aussi ne dédaignait pas d'aller à la télévision, si l'on veut. Et donc, en 1971-1972, là encore, pas mal de films, parmi lesquels on peut citer, j'ai déjà cité Yves Boisset tout à l'heure, le RAS d'Yves Boisset, consacré à la guerre d'Algérie, un film qui, en son temps connu, suscita en tout cas certaines polémiques. Je n'ai pas retrouvé le film de Jean-Pierre Mocky. Ah si, Un drôle de paroissien. Un drôle de paroissien, là encore avec Bourvil, c'était aussi une musique de Robert Enrico. Bref, autant dire que dans les années 70, François de Roubaix était d'autant plus l'un des musiciens, des compositeurs les plus en vue qu'il avait signé, je vous ai parlé des Chevaliers du Ciel tout à l'heure dans la série Petite Musique qui tourne dans la tête, mais si je vous dis Chapi Chapeau, ça y est, c'est fini. Vous l'avez aussi dans la tête, la musique de Chapi Chapeau, donc je ne vous la fais pas. Elle était signée en 1974 par ce même François de Roubaix. Et en 1975, eh bien, François de Roubaix fut au générique en tant que compositeur d'un des succès les plus patents de Robert Enrico, que j'ai un peu brièvement évoqué, un film intitulé Le Vieux Fusil, et qui, comme beaucoup de films français, se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, en mettant en vedette Romy Schneider et Philippe Noiret, et à leur côté, le délicat Jean Bouise et Madeleine Auzeray, dont les amateurs de cinéma français des années 30-40 se souviendront, une histoire poignante qui se passe en France en 1944, au moment où l'occupant allemand commence à comprendre qu'il est temps de quitter le territoire, mais il ne le fait pas sans quelques exactions, et de ces exactions, eh bien, vont être hélas victimes Romy Schneider, en tout cas Clara, le personnage qu'elle interprète de ce film, et d'une manière un peu différente, Philippe Noiret, son mari. Un film qui, en 1975, rencontra un énorme succès et qui obtint 3 Césars, qui venaient à ma souvenance d'être quasiment créés, puisque cette année-là, Le Vieux Fusil obtint le César du meilleur film français et celui de la meilleure interprétation masculine pour Philippe Noiret. Pourquoi Romy Schneider n'a-t-elle pas obtenu celle de la meilleure interprétation féminine? Il faudrait peut-être voir les autres films qui étaient en compétition à cette époque, mais cette cérémonie des Césars fut placée sous un jour un peu triste, puisque le meilleur César de la meilleure musique, le César, pardonnez-moi, de la meilleure musique de film fut attribué à François de Roubaix, mais à titre posthume, puisque le dit François de Roubaix nous avait quittés quelques mois plus tôt dans un stupide accident de plongée quelque part au large de la Corse. Vraiment un destin tragique pour un homme tout à fait intéressant. Je vous ai dit au départ, et j'en suis heureux, que même dans les jeunes générations, on continue à se souvenir de lui. Donc on va le faire aussi, on va se quitter évidemment avec un large extrait de cette bande originale. Le Vieux Fusil, un film de Robert Enrico, 1975, François de Roubaix. Thank you. Voilà, ça craque, mais c'est beau. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.